Et nous sommes en direct depuis les studios de Manosque sur Fréquence Mistral pour ce magazine culturel de midi. Et nous sommes avec Patricia Bouchet. Bonjour Patricia.
Bonjour Mathieu.
Vous venez nous parler de votre roman.
Oui.
Roman qui s'appelle Une araignée dans le rétroviseur. Je crois que c'est votre premier roman.
Tout à fait. C'est le premier roman édité. Avant, c'était une publication sur les mains d'écrivains, mais là, c'est la première fiction que j'écris. Voilà.
Nous allons prendre le temps de parler de cette fiction et aussi de vos divers projets, parce que vous en avez beaucoup, notamment vous réalisez, proposez des ateliers d'écriture en prison, mais pas que, il y a aussi un spectacle, etc. Nous allons revenir sur vos diverses propositions. Je vous propose qu'on commence tout simplement par écouter une lecture des premières lignes. Ce sont les premières lignes de votre roman ?
Tout à fait, oui, oui. C'est Claude Fausse, l'éditrice, qui a proposé ce petit opus à l'écoute.
C'est ce qu'elle fait régulièrement pour les romans qu'elle présente ?
Oui, oui, très souvent. C'est un peu l'originalité aussi de cette maison d'édition, de faire entendre les textes qui publient. Et oui. Je trouve que c'est, ça donne de l'ampleur aux textes et aux mots.
Voilà. Oui, puisque c'est une maison d'édition donc qui s'appelle Parole,
oui.
Qui met la parole au centre, les mots, mais aussi l'oralité. Mmh. Et ça sera aussi l'occasion, tout à l'heure, après avoir parlé de votre roman, d'écouter une interview de Patrick Kova, qui est le coordinateur de cette maison d'édition et qui va nous rappeler les valeurs défendues par cette maison d'édition et aussi qui nous présentera les différentes collections. On écoute tout de suite cette lecture de Claude Fausse, des premières lignes de votre roman « Une araignée dans le rétroviseur ».
Entre chien et loup, je pars. Les lueurs de la ville dessinent une traînée de poudre. Le péage prolonge encore de quelques minutes la vie citadine. Au loin, d'autres lumières prises dans la nuit profonde et noire. Les panneaux indicateurs s'étirent. Les pointillés fluorescents dessinent ma trajectoire. Et l'aventure du voyage commence. Des premiers villages. Des clochers éclairés surgissent alors plus effrontément qu'ils ne l'oseraient en plein jour. Les arbres endormis n'ont pas le temps de me saluer. Et puis, plus de clochers, plus de lumière. La nuit immobile s'est installée. Je m'arrête. Les yeux mi-clos, je tire doucement ma révérence. Une Renault 16 Break se dandine sur une route, à l'intérieur une cocotte minute, des ustensiles de cuisine, de la vaisselle, des draps, des couvertures entassées à l'arrière. Un chat miaule, un chien pointe son museau, et parmi ce fatras, quatre fillettes, dont je fais partie, impatientes d'ouvrir les portières. Un bruit strident me réveille. Courbaturé, je m'étire et délie mon corps. Le jour soulève la couverture sombre de la nuit. Il ne reste alors qu'un léger voile de pénombre. Le paysage martèle des incursions dans mes pupilles réfractaires. Je poursuis. La route tente des rondeurs sinueuses. De douces descentes s'amorcent, de timides côtes leur succèdent. Les mêmes boîtes à quatre roues me précèdent. Et les mêmes fourmis aux yeux hagards jaunis me suivent. Comme apeuré. Quelques lueurs naissantes indiquent que bientôt il fera jour, mais rien ne m'est familier encore. Il me serait possible de retranscrire la perfection des couleurs, des formes qui se dessinent au fil des heures, mais l'instant magique des émotions vécues ne se retrouve qu'en s'aventurant dans les recoins de chaque histoire, et la mienne n'est pas en ces lieux, mais bien là où je vais. Avancer. Il me faut encore avancer.
Il faut encore avancer. C'est l'entrée de ce roman, Une araignée dans le rétroviseur. Patricia Bouchet, on comprend bien que c'est à la fois l'histoire d'un voyage, d'une aventure, et aussi un retour dans l'enfance.
Tout à fait. C'est un voyage, cette femme dont on ne connaît rien, elle arrive appelée par une espèce de besoin, d'envie de retourner sur un lieu qu'elle connaît. Elle en repartira sans qu'on sache qui elle est et où elle va. Là n'est pas le propos. mais elle va donc dans cette maison retrouver des souvenirs. En étant dans une espèce de toujours de mouvement, l'intérêt c'était de comme un mouvement de vie qui avance, on avance dans la vie et elle va faire un voyage, retrouver un lieu, revisiter ce lieu à l'extérieur. L'importance de la nature vient un peu mettre en condition ses retrouvailles, on va dire, jusqu'au moment où elle rentre. Elle re-rentre à nouveau dans cette maison. Une deuxième séquence là s'impose à elle, où elle va retrouver des souvenirs jusqu'à une pièce particulière.
Alors elle découvre cette maison, la campagne Saint-Martin, qui n'est pas située, c'est volontaire de votre part de ne pas dire. Ce qui est important à noter, nous en parlions tout à l'heure, c'est que ce n'est pas un roman autobiographique non plus.
Pas du
Il
tout.
Est écrit au jeu, mais le jeu est un autre.
Tout à fait. Ce qu'il y a d'autobiographique dans ce roman, c'est la maison. La maison existe, je la connais, j'y suis attachée énormément, mais c'est tout. Après, le reste, c'est une fiction, c'est une construction littéraire. Ce roman existe, le premier manuscrit existe, je crois, depuis au moins 35 ans. Et c'était une hymne à cette maison, effectivement.
Donc c'est un écrit qui date d'il y a 35 ans, que vous avez remanié.
Tout à fait. Il y a eu plusieurs étapes de travail. Donc le premier, c'était comme un témoignage d'un attachement à un lieu. Et ensuite, je suis revenue, parce que les mots, c'est quand même mon moyen d'expression principal, et c'était une quête pour moi d'écrire un jour. Donc il a fallu construire cette fiction autour de cette maison. Donc là, après 15 ans à l'aide sociale enfance, j'ai vu, entendu plein de choses. J'ai rencontré plein de femmes, tous ces témoignages ont nourri un peu cette construction de fiction.
Alors cette fiction... Ce qui est important aussi à noter, c'est que vous ne voulez pas parler du cœur du livre, ce qui est normal, puisque sinon ça gâcherait quelque part, divulgacherait ce roman, puisque l'intérêt c'est de le lire et de le découvrir.
Tout à fait. Il y a toute une progression de l'intrigue de cette femme qui rentre dans la maison. On sent bien qu'il va se passer quelque chose, mais je pense que c'est important de ne pas dire, de laisser la surprise sur le point central du roman. Voilà.
C'est important de ne pas dire, mais on peut tout de même dire qu'il s'agit d'un souvenir ou d'un souvenir oublié, enfoui, lié à une forme de traumatisme.
Tout à fait. C'était, quand j'ai construit après cette fiction, c'était pour moi, l'important c'était de parler de l'oubli, la faculté qu'a l'être humain d'oublier des événements traumatiques, comme peut en parler Muriel Salmona, la réminiscence du souvenir.
Qui est Muriel Salmona ?
Elle est psychanalyste et elle fait beaucoup de travail autour de tous les traumatismes par rapport au Bataclan, par exemple, aux violences faites aux femmes, par rapport aux enfants. Voilà, il y a vraiment un travail de fond. Enfin, j'adore ce qu'elle fait. Elle a beaucoup nourri aussi cette construction de fiction aussi.
Et votre travail d'avant, peut-être qu'il y a un lien ou pas forcément?
À l'aide sociale à l'enfance, moi j'étais, c'était un poste, on appelait ça des postes de rédacteur. Donc il y avait déjà les mots, hein, moi c'était le propre de mon travail. Mais ben oui, l'aide sociale à l'enfance, j'ai eu plusieurs postes où on travaille
avec
les
éduques. On voit des choses en tout cas.
On voit, on les voit de près, on les lit, on travaille avec les éduques, les psys, les inspecteurs, le tribunal. Donc voilà, des situations traumatiques que, oui, j'en ai vues, oui. Donc voilà, ça nourrit ce besoin en tout cas d'en parler, par la fiction, d'ouvrir des portes, je dirais, sur justement les traumatismes qui peuvent briser des vies, et que pour moi c'est important de dire qu'il y a un chemin après. Voilà.
Il y a un chemin après, et c'est un chemin qu'on suit. On suit cette héroïne, ce jeu, au cours de ce roman. On va s'enfoncer aussi dans les profondeurs psychologiques humaines. Et en même temps, ce qui m'a marqué dans ce livre, j'ai trouvé que ça restait quelque chose de très simple, mais dans le bon sens du terme.
Oui.
Ce n'est pas simplifié, mais on reste aussi dans quelque chose de très simple. Il n'y a pas de psychologisation trop profonde du personnage.
Non.
On reste dans un voyage embarqué avec cette personne.
C'est tout à fait ça. C'est un voyage... Alors, poétique, entre guillemets. C'est-à-dire que le style est poétique, c'est-à-dire toute cette nature avant, après, qui vont comme une façon un peu d'amadouer cette femme, de l'amener sans qu'elle ait peur à retrouver quelque chose, se souvenir. Et c'est c'est pas en profondeur, c'est juste marquer que l'oubli est possible, le souvenir, retrouver le souvenir est possible et qu'on peut après en faire quelque chose. On peut s'en libérer, voilà. Mais c'était pas aller dans, c'est pas du tout un témoignage, c'était pas raconter la vie de quelqu'un que j'aurais pu rencontrer. Non, ça m'intéressait pas. Je voulais en faire un objet littéraire, parler d'un sujet grave, voilà. En rendant la chose poétique, si je peux dire.
Si, je trouve que c'est un mot qui, pour le coup, colle à ce roman. Ça m'a fait penser beaucoup à la poésie, puisqu'on est plongé effectivement au cœur de la nature et dans une description. Alors, c'est peut-être pas le mot non plus description, ça ferait trop naturaliste description. En tout cas, dans une plongée dans cet environnement avec des arbres, des plantes, une araignée, mais pas que, tout un tas de choses. Et cet art des mots qui rejoint l'art visuel, moi j'ai vu des peintures.
Oui.
J'ai vu des peintures entre l'extérieur de la maison, la nature, la rentrée dans la maison. Cette entrée, le passage de différentes pièces, il y a aussi quelques personnages qui se succèdent, mais j'ai vraiment eu la sensation de prendre un chemin et de passer d'un tableau à un autre.
C'est le but, c'est vraiment le but, c'est de tout ce qui est décrit prend sens au fur et à mesure qu'on avance dans le récit, et c'est vraiment, oui, un voyage tout en douceur qui va à un moment donné amener un moment particulier, mais qui repart assez rapidement dans une espèce de poésie. C'est-à-dire, c'est pas larmoyant, c'est pas pathos, c'est pas ce que je voulais faire. On peut parler de sujets graves sans s'arrêter sur des choses un peu trop voyeuristes. Voilà, ça ne m'intéressait pas. C'est vraiment voilà.
Et ce travail d'écriture, comment ça se passe? Comment vous avez écrit? Alors, ça date d'il y a 25 ans.
Oui, oh là, même,
il y a longtemps.
Même plus. Oui.
Alors, oui. Peut-être le travail de réécriture et de reprise du texte, vous avez fait comment? Vous avez relu ces mots-là et vous êtes dit, ça correspond à ce que j'ai envie de dire. Ça, non, je retravaille le style, le fond.
Oui, moi je suis, comme dirait Claude Fauss, mon éditrice, je suis une laborieuse, je suis une travailleuse. C'est-à-dire, ce premier manuscrit date, j'ai voulu après en faire une fiction, donc il a fallu que je construise, que je me documente, que j'écrive. Et avant de transmettre à l'éditrice, j'ai encore retravaillé, retiré des choses, vraiment. Et vraiment, je souhaite à tout auteur qui souhaite éditer de rencontrer une éditrice vraiment comme Claude Fauss, parce que vraiment, je tiens vraiment à la remercier. Le dernier travail que j'ai fait avec elle, je lui ai soumis une version et elle m'a dit il y a des choses à retravailler. Donc là, on a pris une semaine et on a retravaillé le texte ensemble. Et ce moment-là, qui pour moi a été révélateur.
C'était un travail à deux mains, quelque part.
C'est-à-dire qu'il y avait le manuscrit, et en relisant, elle me disait, ce travail-là, il pointe nos erreurs d'auteur, enfin, toutes les redites, tout ce qu'on essaye de dire et redire de peur. En tout cas, me concernant, de peur de pas être comprise, moi j'ai tendance à dire et redire. Et elle me dit, regarde, elle me lisait ma version, elle relisait en épurant. Voilà, ce travail-là où elle épure le texte en disant, voilà, ça tu le dis mieux là comme ça, et ça, on prend conscience de nos défauts. Et ça, c'est une façon de naître écrivain. Ben, vraiment. Enfin, là, j'ai vu les endroits où, évidemment, oui, c'était dit deux fois. Enfin, et ça vient mettre en valeur, elle a cette qualité, ce don de mettre en valeur ce qu'il y a d'important dans le texte qu'on lui soumet.
Mais c'était un travail de choix, mais est-ce que c'était aussi un travail de réécriture? C'est-à-dire
non.
Que, d'accord, il n'y a pas des figures de style, par exemple,
non.
Des sensations
non.
Ou quoi, ça, vous l'avez gardé
tel quel? Non, non, non. Ouais. Il y a eu des coupes. des coupes sur des redites. Il y a juste, si je de tête, la dernière page, elle était, je crois, au milieu. J'avais eu besoin et ça a pris sens de la mettre à la fin. Voilà. Mmh. Mais il n'y a pas eu de choses de reconstruction ou de style. Non, non, non. Mmh. C'est vraiment éliminer tout ce qui était en trop. Voilà.
À noter aussi sur la forme de ce manuscrit, c'est-à-dire que c'est un manuscrit assez court finalement, ça oui. se lit très rapidement.
C'est une petite capsule, je l'appelle une petite
capsule. C'est une petite capsule, voilà. Mais c'est tout de même un roman.
Mais c'est un roman.
Un roman capsule.
Voilà.
En tout cas, le titre est aussi assez évocateur. Alors, on n'en dira pas plus. C'est oui. compliqué de dire trop d'un roman, puisqu'après, on dévoile trop de choses.
Oui. Je pense que c'est assez.
Les auditeurs qui nous écoutent.
Oui, c'est assez symbolique. Enfin, on peut en faire une première lecture simple. Le rétroviseur, c'est le passé. Une araignée, c'est ce qui fait peur. Voilà.
Un donc, point on comprend, noir dans le paysage.
On comprend assez vite que cette femme-là qui part va chercher quelque chose. Donc voilà. Mais l'histoire, pourquoi l'araignée, je pense qu'il faut, il faut le lire. Je n'en dirai pas plus.
C'est un livre qui existe déjà en tant qu'objet. On peut le trouver dans des librairies.
Alors, sur Manosque, je suis de Manosque, il est au Petit Pois, je crois, mais oui. il est commandable dans n'importe quelle librairie, sur les plateformes, auprès de l'éditeur, partout. Oui, on peut le trouver partout.
Effectivement, j'ai oublié de commencer par le fait que vous étiez de Manosque.
Oui.
Et que, vu que nous sommes à Manosque, c'est important oui. de le souligner. Donc, on peut trouver ce livre en le commandant en librairie, bien entendu. Et vous allez faire vivre aussi ce livre. Est-ce que vous avez des rencontres autour de cet écrit ?
Oui, là, prochainement, dans la région PACA, le 14 mai à la bibliothèque de Fuveau, début juillet, je crois que c'est le 7 ou le 8 juillet, à la médiathèque de Gréoux-les-Bains. Après, je pars dans le sud-ouest. D'autres choses, mais pas encore calées, se feront autour de l'araignée. Oui, il y a peut-être une lecture qui se fera, mais je ne sais pas quand. Parce que comme c'est un texte effectivement court, l'éditrice avait pour projet de le faire en lecture intégrale. Donc voilà, c'est un projet. Voilà,
D'accord, c'est un projet, mais c'est pas prévu encore. Il n'y
a pas
de
date.
Il n'y a pas de date
fixée encore, du tout, du tout. Voilà.
D'accord. Justement, en parlant de l'éditrice, nous allons écouter une interview de Patrick Kova, qui est coordinateur des éditions Parole. Mais avant de passer à cette interview qui dure entre 6 et 7 minutes, c'est une interview par téléphone. C'est toujours un petit peu moins agréable que les personnes derrière le micro, mais en tendant l'oreille, ça reste de manière assez correcte comme son. Et très intéressant. Du coup, je vous conseille d'écouter cette interview. Et nous parlerons ensuite d'un deuxième roman, d'un deuxième projet qui est en cours, et puis encore d'autres projets. Est-ce que vous voulez nous dire un dernier mot sur ce livre ?
Sur mon araignée.
Sur votre araignée. Il reste là de toute manière, hein, sinon laissons les auditrices, auditeurs le découvrir, mais c'est à votre choix. Commandez-le et venez l'écouter.
Voilà.
L'écouter, le lire, pardon, pas l'écouter. Je prépare le son de Patrick Kova, il faut que je le cherche et je l'ai trouvé sur mon ordinateur. On se retrouve dans quelques minutes, on écoute
oui.
Patrick Kova oui. des éditions Parole. Donc.
En fait, les éditions Parole au tout début, donc en 2004, effectivement, ont été fondées par un monsieur qui s'appelle Jean Darrot. Elles ont été fondées dans le Verdon, dans un petit village du Haut-Verdon qui s'appelle Artignosque. Et avec au départ une volonté de raconter des histoires et de les faire partager. Et puis en fait Jean Darrot a appris un petit peu le métier d'éditeur au fur et à mesure que les problèmes se posaient, ce qui veut dire que quand les premiers livres sont sortis, il était persuadé qu'il allait pousser la porte d'une librairie et qu'il allait être accueilli à bras ouverts comme le nouveau éditeur que tout le monde attendait. Et puis, il s'est aperçu que c'était un petit peu plus compliqué. Et donc, il a décidé de commencer à développer cette petite maison en se disant, si mes livres sont compliqués à mettre en place dans des librairies, il faut que j'aille les proposer aux endroits où les gens vont, où il y a du monde. Et donc, le point de départ des éditions Parole, ça s'est passé sur les marchés, notamment le marché d'Ops, les marchés du Haut-Var, beaucoup. Où il y avait le marchand de légumes, le marchand de fromage et entre les deux, le marchand de livres. Et donc, les éditions Parole sont nées comme ça. Et puis, ce qui est assez rigolo, c'est que petit à petit, ben, il y a des libraires qui sont venus sur les marchés et qui ont découvert la production de parole. Et c'est devenu, au fil du temps, une maison d'édition qui est distribuée dans la majorité des librairies indépendantes en France et puis maintenant un petit peu en Europe francophone. Et on commence un petit peu au Canada aussi francophone. Le point de départ, c'est les marchés de Provence. Ouais. Et tout de suite après, il s'est dit, bon, ben, c'est bien, mais comment je peux faire pour imaginer quelque chose qui me permette de faire connaître les livres de la maison à des cercles un petit peu plus larges. Et de là sont nés ce qu'il avait baptisé à l'époque les soupes aux livres, qui sont en fait des soirées, des veillées paysannes qui au départ se passaient beaucoup dans les villages et beaucoup en Provence, puis qui maintenant, donc maintenant je crois qu'on doit en être à près de 300, ça passe un petit peu partout en France, etc. Et c'est des veillées autour de l'oralité et du livre. Ça c'est un petit peu l'ADN des éditions Parole, en sachant que maintenant les choses se passent un petit peu différemment puisque la maison a vieilli, qu'elle a grossi, qu'elle a un catalogue plus important, etc.
Justement sur ce catalogue, peut-être pouvez-vous nous détailler les différentes collections puisqu'il y en a, il y en a plusieurs, quatre grandes collections mais aussi quelques-unes autour.
Alors en fait, il y avait, moi je suis arrivé dans l'aventure des éditions Parole en juillet 2018 et il y avait à l'époque 7 à 8 collections. Pour vous donner un petit peu une échelle, hein, c'est une toute petite équipe, c'est 6 personnes qui travaillent pour la maison d'édition aux différents postes. Et donc c'était compliqué de tenir autant de collections. Donc on a vraiment recentré là depuis 2-3 ans notre production sur essentiellement 4 collections. Alors il y a une collection historique qui s'appelle Man-Femme qui a cette particularité donc d'être écrit uniquement par des man-femmes, donc des autrices. Le livre Une araignée dans le rétroviseur de Patricia Boucher, le tout dernier qui vient de sortir dans cette collection. Mmh. C'est des tout petits livres, c'est pas des livres de poche, nous on a baptisé ça des livres de sac à main. Dans tout notre travail, on porte une très grande attention à la qualité de l'objet du livre, au-delà du texte qu'on va trouver à l'intérieur, mais le plaisir de l'objet, du toucher, le papier, la façon dont on met en page, etc. On apporte beaucoup de soin à ça. C'est important parce que ça fait partie des choses qui actuellement font que les gens se tournent de plus en plus vers le livre. Il y a quelques années, on prédisait que l'Internet risquait de tuer le livre papier. Et en fait, ce qui se passe, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire qu'au plus on est face à des écrans, au plus on a besoin d'avoir des objets sympas à manipuler. Et donc voilà, la collection Man-Femme est un petit peu la collection historique. Il y a à peu près une petite centaine de titres dans cette collection. Ensuite, on a une collection qui s'appelle Regard, qui est une collection... là, vraiment de littérature plutôt axée roman. On a une collection de sciences humaines qui s'appelle Curieux par nature, où là, l'objectif, c'est plutôt de donner accès à des notions compliquées à un public le plus large possible. Et puis, on a une collection aussi qui est relativement nouvelle, qui s'appelle Chemin faisant et qui est une collection de récits de vie, alors que ce soit des récits type biographie, autobiographie ou des récits de fiction, mais qui sont basés sur le principe de, par le biais de la petite histoire, on peut raconter la grande histoire, en fait. On essaie de créer le plus de passerelles possible entre le livre papier et le numérique. Notamment, là, cette année, on va lancer une collection de livres audio. Parce que voilà, c'est un truc qui nous plaît beaucoup. Puis chez Parole, on est beaucoup autour de l'oralité, l'oralité autour de livres, la lecture à voix haute, etc. Et voilà, on essaie de s'intéresser aussi aux nouveaux médias et puis à tout ce qu'on peut imaginer autour des livres, en fait, pour les faire vivre. Donc des spectacles, des lectures musicales, des lectures dessinées, enfin voilà.
Tout un tas de supports. Il y avait aussi une nouvelle ligne éditoriale, les cahiers de Parole. Peut-être pouvez-vous nous en dire quelques mots?
En fait, on a décidé, donc ça c'est vraiment un changement de ligne éditoriale qui est en cours actuellement, de vraiment repositionner les éditions Parole dans un angle éditorial assez simple qui est lutter contre l'indifférence. Et dans ce cadre-là, on a imaginé des petits supports qui sont pas des livres, pour le coup, qui sont des cahiers, donc qui sont vraiment des cahiers, format cahier d'écolier, avec peu de pages. Et ces cahiers sont des cahiers contre l'indifférence, c'est-à-dire que c'est des C'est des petits supports qui sont vendus donc sur le réseau des librairies indépendantes, mais qui sont vendus à 4 euros, donc ce qui n'est pas très cher. Voilà. Ça peut être de la littérature. Hein. On a des titres comme « Leçon d'indifférence » de Nancy Houston qui sont vraiment de la littérature. Et puis, ça peut être complètement aussi des témoignages, des lettres. Et là, dans les prochaines semaines, on va sortir les cahiers de Méditerranée qui sont en fait un partenariat entre les éditions Parole et l'association SOS Méditerranée, où l'objectif, c'est vraiment d'avoir des regards croisés sur une thématique. Donc, on va avoir à la fois des regards de rescapés, des regards de membres d'équipage, par exemple, de l'Océan Viking, ou, voilà, de gens qui participent à ces actions, et puis des regards un petit peu plus décalés d'écrivains ou de dessinateurs, d'illustrateurs, de photographes, etc., qui vont venir enrichir cette thématique à chaque fois. Donc voilà, c'est qu'on travaille avec suffisamment de libraires pour arriver à donner voilà, un petit peu de la voix sur des choses qui nous paraissent importantes, comme SOS Méditerranée. Quoi.
Oui, quelques mots sur SOS Méditerranée pour préciser que c'est une association, une ONG qui sillonne la Méditerranée à bord de bateaux pour aller sauver les migrants qui sont en détresse sur cette mer, en l'occurrence. Merci à Patrick Kova et retrouvez les livres des éditions Parole dans le réseau des librairies indépendantes, ce qui représente environ 3000 librairies sur tout le territoire. Et retrouvez aussi davantage d'informations sur le site editionparole.fr. Et de retour dans les studios de Manosque en direct pour ce magazine culturel de midi avec Patricia Bouchet, donc qui a écrit ce roman Une araignée dans le rétroviseur. Et nous venons d'écouter Patrick Kova des éditions Parole, la maison d'édition qui a édité ce roman. Ce que je vous propose, eh bien, c'est que nous fassions une petite pause musicale et on sera de retour juste après, toujours avec Patricia Bouchet qui nous parlera de ses projets divers et variés, puisqu'il y en a, eh bien, plutôt quelques-uns, pas mal même d'ailleurs. On écoutera, vous nous présenterez votre deuxième roman, en tout cas on en dira quelques mots. Et c'était Bester Quartet Métamorphose et avec le titre Hop. Et nous sommes de retour dans les studios de Manosque en direct, toujours avec Patricia Boucher pour son premier roman Une araignée dans le rétroviseur. Et nous allons parler maintenant de son deuxième roman, mais c'est un roman qui n'a pas encore été publié, donc on en dira juste quelques mots.
Oui, c'était juste pour dire que ce processus d'écriture chez moi est en marche, ça c'est évident, que ce deuxième roman, je l'ai déjà écrit et construit, mais je suis en plein travail de réécriture, du style, travail du style, etc. Juste deux mots, actuellement ça s'appelle l'entre-saison. Une saison qui n'existe pas, c'est plutôt symbolique au cours d'un parcours de vie, c'est pareil, ou être à l'écoute de ce que la vie peut nous dire, et ça sera plus sur un thème de la mort, la vie. Voilà, c'est l'histoire de deux femmes. Voilà. Je ne peux pas trop en dire davantage, parce que le travail de réécriture, des fois, est surprenant et peut donner d'autres pistes. Voilà.
Mais il y a quand même une correspondance avec votre premier roman dans le style, dans le sujet abordé.
Oui, ça sera dans la même veine où la nature est très présente, parle, nous parle quand on l'écoute. Et oui, ça sera le même style, assez poétique, voilà, cette fibre par rapport à la nature, oui. Non, ça, c'est moi. C'est mon style.
Et c'est un texte assez long ou plutôt dans le...
Non, il sera plus long. Je pense qu'il sera plus long. Oui, et je pense que plus je retravaille, plus j'ai commencé, plus il y aura des choses à développer. Donc là, ça sera vraiment, je pense, oui, un opus un peu plus important. Voilà. Donc, que je vais après envoyer. Alors, il est évident que je le soumettrai aux éditions Parole, mais le reste ne m'appartient pas. C'est pas moi.
C'est en tout cas un travail qui va voir le jour bientôt.
Oui, la réécriture, oui, je pense que dans les mois à venir, j'aurai terminé la réécriture, oui.
Et c'est bien un texte, pour le coup, qui est tout neuf, ce n'est pas un texte repris d'il y a 25 ans, comme l'autre texte.
Je ne l'ai pas écrit, il date un peu aussi.
Pas 25 ans, mais 10
non.
ans.
Ouais, je ne saurais pas dire, mais il existait déjà. Ce qui va être nouveau, c'est le début du troisième, qui là, il n'y a rien d'ébauche d'écrite, mais il est en construction un peu dans ma tête.
Le troisième,
oui.
Là, vous êtes parti sur votre lancée.
Oui.
Et au-delà de votre travail de romancière, j'imagine que ça vient aussi compléter ce travail-là d'écriture. Vous avez tout un tas d'autres projets et un projet aussi qui date d'il y a plusieurs années, qui court toujours autour des mains d'écrivains.
Oui.
Et notamment sur Manosque.
Oui, les mains d'écrivains. Alors je dirais que si je suis entre guillemets un peu connue sur Manosque, c'est par rapport aux mains d'écrivains. Que j'expose un peu partout dans la région, mais principalement sur Manosque. C'est un travail que je réalise, ça fait 7 ans que ça existe, et tous les ans je complète les portraits au fil des rencontres que je fais avec des auteurs que je choisis et que je vais photographier pendant qu'ils sont interviewés pour essayer d'attraper quelque chose de leur gestuelle qui parle d'eux. Qui parle
alors de leur gestuelle précisément des mains
oui pardon oui c'est je fais des photos de leurs mains et après je vais écrire un texte qui parle un peu de ce que j'ai pu repérer dans leur gestuelle. Voilà, donc là oui c'est un certain nombre de portraits qui existent. Il y en a un qui a été publié ce matin par l'association Désir de lire Evelyne Sagne, c'est le portrait de Lenka Ornakova Sivad. Voilà,
vous pouvez nous dire quelques mots sur cette autrice?
Oui, elle est d'origine tchèque. C'est son quatrième roman chez Alma Édition. Donc j'ai lu les 3 premiers. C'est quelqu'un que j'aimais déjà beaucoup. J'avais pris plusieurs photos de ses mains sur plusieurs rencontres. Et puis souvent, pour ce travail-là, il me faut du temps. Il faut un temps de gestation. Et je l'avais revue l'année dernière, je crois. Et après, le déclic s'est fait. Parce qu'il faut que je visionne toutes les photos pour essayer d'attraper les gestes qui reviennent. Et voilà, des fois, il faut un peu de temps pour trouver l'angle après pour écrire. Voilà, sur ce que je vais avoir envie de dire de l'auteur, de la façon dont il écrit, etc.
C'est vous qui faites les photos?
C'est moi qui fais les photos et le texte.
Et voilà. C'est toujours lors d'interview?
Oui, toujours, toujours. C'est pas des photos, c'est jamais posé. Ça, je veux pas. Quand les mains sont posées, elles parlent plus. Elles n'expriment plus rien. Quand l'auteur est en train d'être interviewé, il est occupé à ce qu'il dit. Et là, les mains, oups, ça part dans tous les sens. Et voilà, il y a des gestes qui reviennent et qui parlent forcément de la personne.
Alors, vous allez nous lire justement un extrait de ce travail avec cette romancière. Cette romancière, elle a été invitée par l'association Désir de lire à Sigons.
Elle est connue. Oui, tout à fait. Puis là, elle vient de sortir son dernier roman, enfin, il y a quelques mois, Un regard bleu. Et c'est vraiment, enfin, il est magistral au niveau de son écriture qui, au fil des romans, prend de l'ampleur. C'est un portrait croisé de Rembrandt et de Comenius, un philosophe tchèque. Voilà, j'en dirai pas plus, mais voilà, donc le début du portrait de ses mains.
On vous écoute même si nous n'avons pas la photo.
Oui,
c'est pas disponible sur le site de Désir de lire.
Tout à fait, oui. Au commencement, la matière, puis l'approche. Le travail, à la fin les mots, puis le verbe. Errer dans la carrière de l'imaginaire, se frotter à la matière, s'écorcher la pensée qui émerge. Floue, rugueuse, spongieuse, encore tiraillée et ancrée dans les nymphes d'une idée, d'un sujet qui viendrait de loin, qui aurait fait voyage depuis des contrées lointaines, indicible encore à la raison. Laisser émerger, se diluer le magma, saisir le sujet, l'enrichir, chercher, rechercher ce qui le compose et ancrer l'idée.
Merci pour cette lecture.
C'est juste le début des débuts, le premier texte.
Oui, parce que c'est un texte assez conséquent.
Oui, il y a, je crois, 9 pages avec les photos, des planches photos et des planches textes qui s'alternent et qui se répondent.
Là, on entend bien à voir, plutôt à écouter votre langue poétique, puisqu'on est vraiment dans le présent de l'écriture. Mais c'est ce qu'on retrouve dans votre roman. C'est pour ça que vous parliez de poésie. Je trouve que c'était assez juste par rapport à ce que vous proposez. Nous sommes toujours en prise avec les choses, en prise avec le présent et en prise avec la matière.
Et oui, c'est... Je crois que c'est mon terreau d'écriture, c'est ma façon de regarder le monde, de regarder les gens, cette façon un peu... Alors, je ne fais pas de poésie, j'ai un style poétique, parce que je ne prétends pas être poète, pas du tout, mais cette façon de dire les choses en passant, oui, par souvent des métaphores ou des choses comme ça, c'est comme ça que je m'exprime en tout cas.
Ce qui est indicible à la raison.
Tout à fait.
Est-ce que vous avez d'autres mains d'écrivains à venir ?
À venir ? Oh oui, j'en ai. Oh, j'ai excessivement de portraits en attente.
Et alors, plein de mains.
Oui, plein de mains dans mon ordinateur. Mais après, c'est des fois, le déclic se fait pas. Ça n'a rien à voir avec l'auteur, pas du tout. C'est que je ne trouve pas l'angle ou je n'ai pas les photos. Je n'ai pas réussi à choper les photos et pas réussi à choper la gestuelle de l'écrivain.
Vous voulez dire que des fois, vous faites tout ce travail, mais qu'il n'y a rien qui sort.
Je vais visualiser les photos et je ne trouve pas. Je n'ai pas attrapé quelque chose. Et ça ne tient pas du tout à l'écrivain, pas du tout.
Et quelques exemples de personnes dont vous allez croquer les mains par photos et par les mots, ou bien...
Alors, le prochain, je pense que...
On garde la surprise
que...
aussi.
Non, ça, je peux le dire. D'accord. Parce que vous l'avez reçu il n'y a pas si longtemps que ça, et il y a un lien effectivement avec Désir de lire. C'est Arnaud Bertina. Ah,
bien sûr, vous pouvez d'ailleurs écouter notre émission
sur notre site internet.
fréquence3.com.
Voilà, j'ai plein de photos, je vais en refaire. Et...
Ouais, c'était une très belle émission.
Et oui, c'est un...
Et des très belles mains aussi, alors.
Oui, un auteur très talentueux, avec un regard particulier, riche et intelligent, fin. Enfin bon, voilà, je ne vais pas dire trop de compliments.
Et où les trouve-t-on, donc, ces mains d'écrivains ? Sur le site internet de Désir de lire ou sur aussi un autre... Vous avez une page personnelle ou...
Alors, celui de Lenka, il a été publié ce matin sur Désir de lire. Je sais que Parole, je leur avais fait une de leurs autrices, Fanny Saint-Tenoy. Après, il existe, c'était ma première publication, un catalogue d'exposition qui regroupait 5 auteurs que j'avais exposés au Château des Templiers à Gréoux. Donc Delphine de Vigan, Serge Joncourt, Sylvain Prudhomme, Carole Martinez et Amélie Nothon. Voilà. Donc c'est un catalogue d'exposition qui a été publié par Redactive, une petite maison d'édition qui se trouve derrière Aix, sur Rousset. et qui est toujours disponible partout. Voilà. Mais ce ne sont que des extraits de portraits, photos et textes. Mais du coup, voilà, c'était juste pour donner envie de venir à l'expo. Voilà.
Merci pour ce témoignage de... qui est encore une autre dimension de,
travail.
De votre travail. On va encore passer à une quatrième dimension. C'est les ateliers d'écriture. Alors là, on passe de l'écriture, qui est aussi un travail, assez personnel, assez introspectif, j'imagine, à, au partage. Alors là, c'est le partage pas par les mots sur un papier, mais par l'humain, ce qui se passe dans une salle autour d'une table avec des personnes en prison en l'occurrence.
Oui, je travaille, je n'interviens qu'en maison d'arrêt. Et là, c'est une autre dimension. Je joue avec les mots. Je marie les deux choses qui m'intéressent, c'est-à-dire l'humain, ce travail que j'avais fait à l'aide sociale à l'enfance, où là, on a affaire directement à l'humain, et le plaisir des mots. Donc, tout est regroupé dans ces ateliers. Et ce sont, ça fait quand même plusieurs que je fais au quartier hommes et au quartier femmes. J'ai construit un atelier. Moi, j'y vais une semaine. Je voulais pas faire un atelier où je viens une fois par mois ou une fois tout. Non. Moi, ce qui m'intéressait justement, c'est de faire sur un temps court. On se voit 2 heures par jour, tous les jours. Et donc, pour créer un lien ou un prétentieusement, je dirais, un peu de confiance, s'établir un peu de confiance pour les aider à basculer dans l'écrit et à livrer. Le but de l'atelier, c'est de partir de la réalité pour partir vers la fiction. Les amener à décoller de la réalité. Alors moi, j'avais construit un atelier en ce sens. Je m'aperçois au fil du temps qu'il faut que je sois absolument très attentive. Il faut que je m'adapte tout le temps à chaque atelier, au groupe et aux individus qui constituent le groupe. Parce que ce que je supposais les aider, des fois ça bloque, c'est-à-dire que j'avais construit un atelier en posant le moins de consignes possibles, me disant qu'en détention, les consignes, ils ne vivent que de ça, que leur vie est très très régulée par des choses, et je me disais, voilà, dans ce lieu, je vais donner le moins de consignes possibles.
Offrir un espace de liberté.
Voilà, sauf que des fois ça fonctionne, et des fois ça ne fonctionne pas. Justement, parce que du coup, ils ont tellement l'habitude de répondre à des consignes ou à des règles que, pouf, ça, ils ne comprennent pas. Voilà. Donc, il y a déjà ça qu'il faut que je, selon le groupe, je m'adapte tout le temps. Je vais les rechercher pour les amener. Alors, vous allez me dire, je fais une fixette, mais j'apporte des photos de mains. Parce que je trouve qu'à partir d'une main, on peut tout imaginer. Qui a au bout de cette main, dans quel contexte, où il se situe. Et je trouvais, enfin, ça fonctionne des fois. C'est-à-dire à partir d'une photo de main, hop, ils arrivent à créer une histoire. Des fois oui, des fois non. Mais c'est très intéressant. Très intéressant et une fois que le cadre est posé, et ça je voulais remercier deux personnes qui travaillent dans la maison d'arrêt où je vais, c'est-à-dire Johanna et Farid, qui sont en amont du travail, qui constituent les groupes. Il y en a un qui est surveillant des activités, l'autre qui est coordinatrice, parce que le cadre dans ce genre d'atelier est hyper important. Quand le cadre est clair et bien défini, ça aide à la bonne gestion de l'activité. Voilà, ça c'est hyper important. Après, une fois moi quand je suis avec eux ou avec elles, ce que j'y fais, c'est entre eux et elles et moi, se construit ou pas, enfin, le lien, mais le cadre dans un milieu carcéral, c'est important.
Et ces écrits, qu'est-ce qu'ils deviennent ensuite? Ils ont vocation à vivre ou ça reste dans un moment de partage? Vous avez un moment de lecture à la fin?
Alors,
comment ça se passe?
J'essaie de leur... Non, ils ne sont pas voués à être publiés parce que je leur dis, comme ils ont beaucoup de mal, ils ou elles d'ailleurs, à partir dans l'écrit, je leur dis que tout ce qu'ils écrivent et tout ce qu'ils confient, ou ils le ramènent en cellule avec eux, ou ils me le donnent, mais moi, je ne transmets rien aux autorités judiciaires. C'est à moi. Ce qui se passe dans cet atelier-là,
c'est un gage de confiance.
Voilà. Alors, des fois, ça met un peu de temps. Ils se disent, voilà. Des fois, ils repartent avec. Des fois, voilà. C'est aléatoire, mais voilà. C'est une espèce de confiance que j'essaye d'établir pour pas qu'ils se censurent, par contre. Pas qu'à l'écrit, voilà.
Et avoir une maîtrise sur sa création, c'est important. C'est justement avoir une sincérité dans cette création.
Mais je m'aperçois qu'ils ont quand même beaucoup de mal à partir dans l'imaginaire. Alors, je ne sais pas si ça tient à la période compliquée qu'on vient de traverser, c'est-à-dire que ils ont été privés aussi d'activité et que ils ont quand même du mal à partir dans l'imaginaire. Ils sont.
Puis l'univers carcéral n'est pas un endroit qui est forcément un terreau favorable pour avoir un esprit de création.
Mais je leur dis, au contraire, je dis, saisissez-vous de ces temps-là. Alors, ça arrive assez souvent qu'ils me disent à la fin, ah bah merci le temps qu'on a passé avec vous, on s'est évadé, voilà, dans la cellule on est en boucle, etc. Donc ça c'est quand ça arrive, c'est assez là où sympa.
Oui, c'est là où il y a du sens aussi dans ce que vous proposez. J'imagine que c'est ça aussi que vous recherchez, ce moment de liberté.
Oui, de leur offrir un temps de pause. Après, je leur dis aussi tout de suite ma position, c'est-à-dire un délit, une peine. Bon, c'est comme ça, voilà. Par contre, toucher du doigt un peu les conditions de détention et la violence qui règne, la souffrance palpable, voilà. Mais au moins, pendant ce temps-là, essayer de penser à autre chose et de s'évader, quoi.
Il nous reste 5 minutes et vous avez encore quelques projets à nous livrer. Peut-être nous en dire encore quelques mots. Je crois qu'il s'agit à la fois d'un spectacle et aussi encore d'un travail autour de photos et de textes.
Oui. Je suis très bavarde, je m'aperçois que je suis très bavarde.
C'est normal, on est là pour ça. À la radio, il faut mieux être bavard et bavarde.
Oui, alors le spectacle, c'est un travail que je fais avec un comédien qui s'appelle Daniel Michel Tressant, qui est dans le Sud-Ouest. Et on construit ensemble un spectacle qui est entre humour et délicatesse, entre tendresse et rire. Voilà,
Que vous jouez ?
Non, c'est lui.
Ah, c'est pas
lui. Non. Moi, je l'écris, je construis le spectacle. C'est-à-dire, il me donne tous les. Il est propriétaire d'un lieu où il reçoit. C'était gîte, chambre d'hôte, et il est sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, il reçoit des gens. Donc, il a récolté un tas d'anecdotes, mais tout tourne autour de ce lieu qui lui est cher aussi. Et il va parler un peu avec humour de ces gens qui passent et sa façon à lui de réagir à des comportements des fois un peu excessifs, drôles.
Mais c'est vous qui l'avez écrit.
Alors, il me donne les anecdotes et moi, je l'écris et je construis le spectacle.
Ah oui, c'est vraiment un travail à deux mains.
Oui, voilà, là c'est tout à fait. Donc, voilà, c'est un comédien bourré de talent, je trouve. Voilà. Donc, mais il est en construction. Je tenais quand même à le citer. Voilà. C'est ça.
Et vos différents projets, comment peut-on être au courant de ce que vous faites ? Vous n'avez pas un site internet
Non, j'ai une page Facebook, c'est tout.
C'est déjà pas mal si voilà. Vous relayez ces informations.
Oui, toutes les actualités concernant et les mains d'écrivain ou le roman, quand le spectacle sera construit, enfin voilà. Donc je publie dès qu'il se passe quelque chose, mais je n'ai pas de site. Non, du tout.
Et cette page Facebook,
comment la trouve-t-on ? C'est à mon nom, Patricia Boucher.
Patricia Boucher, oui, tout simplement. Mm-hmm. Et encore un projet, ça sera le dernier cette fois.
Oui. Alors c'est aussi texte et photos parce que c'est aussi quelque chose que j'aime bien manier. Ce sont mes photos. C'est un texte pour le coup assez court. Je pense pas que ce sera un texte publiable. Ça s'appelle Émoi. Émoi, E-M-O-I-S, les émotions, et moi, M-O-I. C'est-à-dire ça va parler de la difficulté de gérer les trop-pleins d'émotions, les troubles émotionnels. Donc c'est une palette très très large, mais qui est accompagnée de photos que j'ai prises lors de spectacles de danse qui sont très dans le mouvement et qui parlent de ce qui peut se passer à l'intérieur et la relation avec l'extérieur quand on a du mal à gérer un peu. Voilà. Donc ça peut être des hypersensibles, des hauts potentiels, des troubles autistiques, de l'autisme. Voilà. Donc là, je vais transmettre ce travail à Autisme Info Service pour voir si on peut faire quelque chose ensemble.
D'accord, donc c'est ça la vocation de ce travail, le transmettre à cet organisme.
Oui, dans un premier temps, oui. Voir s'ils veulent, je ne sais pas, en faire un livret pour faire comprendre au grand public. Ça ne sera pas une plaquette d'informations sur, par exemple, sur l'autisme. Non, je ne suis pas assez calée. Mais pour expliquer au grand public ce qui peut se passer chez quelqu'un qui est en prise avec ses émotions. Ce que l'extérieur peut faire chez lui et ce qui se passe à l'intérieur. Voilà.
On retrouve encore des ponts
et
des traverses avec votre travail, que ce soit en atelier d'écriture, dans votre roman, dans votre travail de main d'écrivain avec ces photos et ces textes aussi dont vous nous avez lu un extrait tout à l'heure. Un travail riche, donc. Merci d'avoir passé du temps sur les ondes de Fréquence Mistral pour...
Merci Mathieu de m'avoir
accueilli. D'écrire et donner à partager votre travail. Ça. Et je rappelle aux auditrices, auditeurs, que cette émission que vous écoutez aujourd'hui en direct... Eh bien, sera réécoutable autant que vous voulez sur notre site internet fréquencemistral.com. Merci beaucoup Patricia Boucher, peut-être à une prochaine fois sur nos ondes encore une fois, puisque vous avez plein de choses à dire. Et on annoncera aussi les dates de rencontre pour votre livre Une Super. Araignée dans le rétroviseur de Patricia Boucher aux éditions Parole, collection Main de Femmes.